Sociologue, anthropologue de l'ULB et essayiste, Paul Jorion a enseigné à l'Université de Paris 8, à la vraie Université de Bruxelles, la VUB, et à l'Université catholique de Lille. Mais Paul Jorion a aussi travaillé pour le secteur financier aux États-Unis. En 2007, il annonçait dans un livre « Vers la crise du capitalisme américain, l'imminence de la crise des subprimes ». Paul Jorion anime aujourd'hui un blog sur pauljoriontoulier.com. Éloignement prudentiel oblige. Retrouvez maintenant cet entretien du 21 avril 2020 entre Paul Magnette, bourgmestre de Charleroi, président du PS, et Paul Jorion, essayiste. L'entretien a pour thème le monde d'après.
Paul Magnette, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation de PJTV, notre petite chaîne de TV, où nous avons déjà eu comme invité Jacques Attali et Jean-François Julia, le président de Greenpeace. Alors la question c'est, qu'est-ce que c'est que cette époque dans laquelle nous sommes? Je vais d'abord te présenter brièvement pour ceux qui ne sauraient pas qui tu es. Tu es le bourgmestre, ce qui en français de Belgique veut dire le maire, de Charleroi. Charleroi dont ce qu'on appelait en tout cas au moment où mon père, qui était né à Fontaine-l'Évêque, parlait de son pays, on l'appelait le pays noir. Tu as été ministre-président de la région Wallonie en Belgique et c'est l'époque où sur le plan international tu es apparu avec cette extraordinaire intervention où tu justifiais les doutes, les questions que la Wallonie se posait par rapport au CETA, donc l'accord économique et commercial avec le Canada. On t'a vu apparaître, la vidéo qui a été faite de ton intervention a été beaucoup regardée sur mon blog. Et depuis quelque temps, tu es président du Parti Socialiste Belge. Alors, il y a deux choses que nous avons en commun. La première, c'est que nous sommes socialistes tous les deux. Et la seconde, c'est que nous avons bénéficié, toi et moi, d'une bourse de la fondation Wiener Hanspach qui nous a permis, à des époques différentes, à 20 ans de décalage, d'étudier à Cambridge. Alors, merci d'être là. Nous vivons une époque tout à fait curieuse. Chacun d'entre nous sait à peu près maintenant, de manière plus ou moins correcte, ce que c'est un virus, ce qu'on ne savait pas nécessairement. Hier, pour la première fois, sur les marchés internationaux, le pétrole est tombé aux États-Unis à un prix négatif, c'est-à-dire qu'on paye jusqu'à 37 dollars aux personnes qui étaient disposées à prendre la livraison d'un baril de pétrole parce que l'espace de stockage était absolument débordé de tous côtés et ceux qui stockaient n'arrivaient plus à le faire et donc on payait 37 dollars à chacun qui voulait bien acheter, prendre chez lui un baril de pétrole. Alors cette époque extraordinaire, d'abord dis-nous, qu'est-ce que c'est?
Je crois que c'est très très compliqué encore de porter un jugement parce qu'on est encore au cœur de l'événement et que les répercussions de cette crise ne se font sans doute encore sentir que de manière très partielle. Et donc c'est toujours un peu dangereux de faire de la prospective ou d'essayer de déjà porter un jugement quand on est au cœur de l'événement. Mais on est certainement dans ce qui me frappe le plus, c'est le très profond exercice d'introspection individuelle et collective qui est en cours. De manière consciente ou de manière pas forcément consciente, nos vies ont fondamentalement changé parce qu'on est confiné, qui est un terme qu'on n'utilisait pratiquement plus que dans le milieu de l'énergie nucléaire. Personne ne parlait plus de confinement. Personne n'aurait, je crois, imaginé un jour la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, sauf dans l'un ou l'autre film de science-fiction éventuellement. Et donc, ça bouleverse évidemment toutes nos références, non seulement nos références historiques, nos références politiques, mais même nos références les plus intimes, se retrouver enfermés chez soi, à travailler en famille pour ceux qui ont la chance et la possibilité de télétravailler ou se retrouver dans un monde du travail qui est à moitié déserté, dans des villes qui sont des villes complètement désertes comme on ne les a jamais vues. Moi, comme bourgmestre, quand je déambule, je le fais peu, mais je le fais quand même un peu dans les rues de ma ville ces temps-ci, je ne la reconnais pas. parce que la ville, avant d'être un ensemble de rues, de places et de bâtiments, c'est, comme disait Durkheim, c'est de la densité morale. Et là, tout d'un coup, il n'y a plus de densité morale. Il n'y a plus que la partie la plus matérielle, la plus minérale de la ville, et donc on ne la reconnaît plus. Et cette difficulté à reconnaître ce qui nous est familier, je prends ici l'exemple de la ville, je crois qu'on le retrouve à peu près partout, dans nos existences personnelles, dans le monde du travail, dans l'idée que nous nous faisons de la mondialisation, du rôle des États, de l'économie capitaliste, etc. Tout doit être, en tout cas, objet d'un nouveau regard.
On parle beaucoup ici et là de l'après-Covid-19, mais comme tu le soulignes, on ne peut pas encore déterminer une date. Et est-ce que la période ne peut pas s'éterniser d'une certaine manière, puisqu'on a affaire à une pandémie d'un virus qui n'a jamais impacté les populations humaines, qui est venu d'un autre animal? C'est-à-dire que quand on nous dit maintenant que on atteint des seuils d'immunisation de 3%, etc., on est apparemment encore loin du compte. Est-ce qu'il faudra attendre, à ton avis, des vaccins et des véritables remèdes?
Mais le seul fait de parler de l'après, même si on le fait tous, est en soi très symptomatique. Ça veut sans doute dire qu'on n'a pas encore compris qu'on allait vivre avec cette situation. Et on a encore le vain espoir ou le vague espoir que ce soit finalement une parenthèse, que ce soit un moment très particulier mais qui va se refermer et qu'il y aura un après qui pour certains sera comme l'avant, ça n'aurait été qu'une parenthèse, qui pour d'autres sera un temps différent, mais je pense que cet après, ce sera aussi un présent prolongé. Je crois que le rapport à la maladie, les distances sociales, le rapport aux autres, tout ça va très très profondément changer parce que on ne sait pas comment on va renvoyer les enfants dans les écoles, on ne sait pas comment on va pouvoir reprendre le travail dans les usines et dans les bureaux, on ne sait pas quand un jour on pourra peut-être retourner dans des grands événements sportifs, culturels, se promener dans des villes bondées, aller dans des restaurants où on a peu de place, parce que on a peine à imaginer que cette distanciation sociale, comme on l'appelle, disparaisse complètement, très probablement. C'est aussi tout un changement culturel. On l'a vu d'ailleurs après le SRAS dans un certain nombre de pays asiatiques. Est-ce que nous allons tous nous mettre à porter des masques quand nous nous promènerons dans la rue ou dans les grandes surfaces? Est-ce qu'en fonction de l'âge, en fonction de notre force immunitaire, on va encore oser se livrer exactement aux mêmes activités que celles auxquelles on s'est livré très longtemps? Ce sont vraiment des questions ouvertes. Et je parlais avec une dame qui est une vieille militante socialiste, qui me disait « Mais moi, j'ai 74 ans et j'ai une angoisse terrible, c'est de me dire que je ne pourrai pas sortir de chez moi avant qu'il y ait un vaccin validé et donc peut-être pas avant un an et demi. » Eh bien ça, ce sont des interrogations vraiment anthropologiques très profondes que nous sommes en train de nous poser.
On emploie beaucoup la métaphore de la guerre. On dit la guerre contre le virus, un effort de guerre, une économie de guerre. Est-ce que c'est une bonne idée ou est-ce que ça a plutôt des inconvénients?
Les métaphores, comparaison n'est pas raison. Donc les métaphores, ça se prête toujours à beaucoup de confusion. Moi, j'aime pas du tout l'idée d'une guerre contre un virus parce que ça ne veut pas dire grand-chose. C'est plutôt une bataille sanitaire, comme il y en a eu beaucoup d'autres. Mais une guerre, je trouve que le terme là est fondamentalement rhétorique. Notre économie est tout sauf une économie de guerre. On ne peut pas dire qu'on ait réquisitionné la production largement pour lutter contre le virus. Une toute petite partie de la production dans quelques secteurs industriels est réorientée vers la production de masques, de traitements, de respirateurs, etc. Mais on n'a pas du tout la mobilisation telle qu'on peut l'avoir dans une économie de guerre. En revanche, il y a sans doute des éléments de comparaison qui sont intéressants. C'est certainement l'émergence de catégories sociales jusqu'ici peu visibles et qui tout d'un coup sont un peu les héros de cette période. La seule référence dans le discours de Macron que je trouvais intéressante, c'était cette référence aux poilus, en quelque sorte. Ce sont, même si elle était implicite, c'est-à-dire que ce personnel soignant, mais aussi les éboueurs, aussi les facteurs, les travailleurs de la logistique, les travailleurs de la grande distribution, les enseignants qui continuent quand même à assurer un accompagnement des enfants dans les écoles pour les enfants du personnel soignant ou du personnel de sécurité, beaucoup d'autres, ce sont des hommes et des femmes aujourd'hui dont on s'aperçoit qu'ils ont une utilité sociale majeure et qui pourtant, dans notre économie capitaliste dominée par la valeur d'échange, l'exemple du pétrole que tu donnais, on est un exemple par l'absurde particulièrement frappant, ces métiers ne sont ni les mieux valorisés ni les mieux rémunérés. Aujourd'hui, les consultants qui aident les entreprises à faire de l'optimisation fiscale, ben, c'est pas les héros de la nation. Ils ne servent pas à grand chose dans les circonstances. Ils servent même à rien. Ils ont même plutôt un rôle qui est nuisible à la collectivité et à la communauté, puisque ils contribuent à définancer les pouvoirs publics, dont on s'aperçoit combien on en a besoin. Et pourtant, eux sont extrêmement bien payés. Et donc, on s'aperçoit que l'échelle des valeurs sociales, telle qu'elle se traduit à travers les statuts professionnels, à travers les rémunérations, est en fait à l'inverse de l'échelle d'une véritable utilité sociale qui est révélée dans cette crise-là. Il y a quand même quelque chose qui a un point de comparaison avec une situation de guerre où ces jeunes gens issus de la paysannerie, de la classe ouvrière, des milieux urbains modestes, tout d'un coup devenaient ceux qui allaient au front pour sauver la nation.
Dans le système où nous sommes, la valorisation des emplois, l'argent qui va être payé comme salaire, elle dépend de manière générale du rapport de force entre les employeurs et les employés. On peut, par le biais des syndicats, se mettre ensemble et se défendre de manière collective. Dans le cas de ces professions qu'il faudrait revaloriser parce que nous rendons compte à quel point elles sont indispensables, souvent l'employeur, c'est l'État. Est-ce que c'est pas en général l'État maintenant qui décide pour ce personnel indispensable comme les enseignants, les gens qui travaillent dans les hôpitaux, dans les emplois qui sont moins bien rémunérés? Comment peut-on faire pour revaloriser à leur juste valeur des emplois comme ceux-là?
Alors, beaucoup de ces emplois dépendent effectivement de l'autorité publique en général, de l'État ou des collectivités locales et territoriales, mais pas tous. La plupart de ceux qui dépendent de l'autorité publique sont, en général, ont un statut convenable et ont des durées de temps de travail convenables, un certain nombre d'avantages sociaux qui l'accompagnent en matière de temps libre, etc., et même des rémunérations qui sont dans les rémunérations médianes, voire médianes supérieures. En revanche, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de métiers qui sont aujourd'hui vraiment fondamentaux et qui, dans l'ancien capitalisme industriel, étaient intégrés dans les entreprises, dans les grandes entreprises, et qui ont été de plus en plus externalisés vers une économie de la sous-traitance. Je pense évidemment à la logistique, je pense à tous les services aux entreprises, des services de nettoyage, de gardiennage, etc., etc., qui, eux, très souvent, ont des statuts beaucoup plus précaires, qui sont souvent occupés par des contrats à courte durée et qui ont des bas salaires. On a, avec les organisations syndicales, fait un peu commencer l'analyse justement des hommes et des femmes qui travaillent dans ces secteurs qu'on appelle les secteurs cruciaux, ceux qui ont été définis comme les secteurs cruciaux par le gouvernement et par les partenaires sociaux. Eh bien, on s'aperçoit que beaucoup de ces travailleurs sont en fait dans le secteur privé en dessous du salaire minimum. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est aussi très révélateur. Je crois que c'est un combat de demain. On ne peut pas dire on les applaudit aujourd'hui, on les remercie, on les qualifie de héros de la nation, et puis demain, ils continueront à travailler avec des salaires de 10 ou 11 euros de l'heure bruts et des contrats précaires. Là, il y aurait quelque chose qui serait du domaine d'une injustice fondamentale.
Nous allons revenir un peu plus tard sur la question du travail sous la forme de la relocalisation. Mais avant ça, tu as employé le mot de mobilisation en disant bon, les États ne sont pas mobilisés comme en situation de guerre. Par exemple, ton collègue Guy Verhofstadt, l'autre jour, s'est fâché très fort dans le cadre du Parlement européen en interpellant Mme von der Leyen. Tu es un grand spécialiste de l'Europe, je rappelle. Pour ceux qui ne le savent pas, que ta thèse s'appelait Citoyenneté et construction européenne, ta thèse de sciences politiques. Est-ce qu'il ne faudrait pas, au niveau européen, quelque chose de l'ordre d'une mobilisation?
Oui, là, je pense que c'est vraiment, pour le moment, la grande occasion manquée, c'est l'Europe. L'Europe, elle ne s'est jamais construite que sous l'effet de crises ou de pressions extérieures. Et aujourd'hui, on a par excellence une crise qui est une crise majeure, qui est une crise qui affecte le monde entier et qui affecte tous les pays européens de la même manière. Alors, certains pays ont davantage de moyens d'y répondre, que ce soit sur le plan sanitaire, sur le plan financier et budgétaire, mais tout le monde est touché. Donc on ne peut pas faire de comparaison avec les crises financières, les crises économiques ou les crises agricoles qu'on a pu connaître dans le passé. C'est vraiment un phénomène qui touche l'ensemble de l'Europe et donc qui devrait par excellence susciter une mobilisation européenne et un grand phénomène de solidarité. D'abord, en construisant l'Europe de la santé, c'est une dimension de l'Europe qui aujourd'hui est pratiquement inexistante. Or, l'Europe a une capacité beaucoup plus grande que les États pris isolément de coordonner les efforts de recherche, de lancer des marchés publics conjoints pour établir un rapport de force qui soit dans l'intérêt public face aux industries pharmaceutiques, de faire en sorte aussi d'organiser la solidarité dans l'aide entre les différents Européens. Ça existe en matière de protection civile, par exemple, en matière de protection incendie. Quand il y a des incendies de forêt dans le nord de l'Espagne, il peut y avoir des Canadaires français ou portugais qui interviennent, et c'est coordonné par l'Union européenne. Ça devrait pouvoir exister aussi sur le plan sanitaire. Donc là, il y a un premier énorme effort à accomplir, et j'espère vraiment que l'Europe sortira renforcée de cette crise sur ce plan-là. Et puis, évidemment, il y a la question de l'union économique et monétaire. Aujourd'hui, cette Europe a une monnaie, mais elle n'a pas de véritable budget, elle n'a pas de véritable trésor, elle n'emprunte pas, elle ne se constitue pas sa propre logique d'investissement en émettant des obligations ou en émettant de la dette purement et simplement. Or, on voit bien que nous vivons une situation, et c'est pas à toi qu'il faut l'expliquer, où on a à la fois un ralentissement de la productivité en général en Europe et en même temps où on a une certaine forme de crise des finances publiques, puisque tous les niveaux d'autorité, depuis le local jusqu'au national, en passant par les collectivités territoriales, ont des difficultés à couvrir leurs dépenses avec les recettes telles qu'elles existent aujourd'hui. Il n'y a que deux moyens de corriger ça. L'une, c'est évidemment la justice fiscale, c'est faire en sorte que rentre dans les caisses des autorités publiques l'argent qui échappe aujourd'hui, et ça c'est un premier véritable scandale. Et l'Europe y a une très grande responsabilité, puisque c'est d'abord la concurrence fiscale interne à l'Union européenne qui fait perdre aux États des moyens publics énormes. Quand des grandes entreprises rapatrient leurs bénéfices vers un pays dans lequel ils ne payent pratiquement pas d'impôts des sociétés, et ce n'est qu'un exemple parmi d'autres de nombreux montages fiscaux, eh bien ce sont tous les autres États qui sont privés de ces ressources. Et l'autre moyen, c'est évidemment que l'Europe prenne le relais des États et des autres niveaux de pouvoir en faisant en sorte d'avoir elle-même une politique d'emprunt et une politique d'investissement qui viennent prendre le relais de pouvoirs publics dont les finances publiques sont déjà assez lourdement affectées. Alors soit en mutualisant ses dettes, comme on le dit beaucoup, soit en émettant ses propres obligations et en ayant ses propres dépenses en complément de celles des États membres.
Le Benelux. Parmi les trois pays, il y a au moins un paradis fiscal, peut-être même trois. Oui. La CECA, Communauté européenne du charbon et de l'acier, toujours un ou plusieurs paradis fiscaux. Le marché commun, la zone euro, cette concurrence entre les pays, le moins-disant fiscal qui joue au sein même de l'Union, comment est-ce qu'on peut le résoudre ?
Alors, je crois vraiment qu'une crise comme celle-ci doit être l'occasion de mettre tout cela à plat. L'Europe va avoir des besoins budgétaires énormes. Si on veut être à la hauteur de cette crise, aider les États à financer, comme on vient quand même de commencer à le faire grâce au commissaire luxembourgeois, justement, Nicolas Schmitt, oui. Le commissaire en charge du travail de gauche, qui a mis en place un système de réassurance sur le plan européen. C'est une première avancée. Ça fait très longtemps qu'on en parlait. Ça n'avait jamais été mis en place. Donc là, il y a quand même une avancée qui est accomplie de ce point de vue-là. Si on veut aider les États membres aussi à couvrir les dépenses qu'ils auront dû occasionner pour financer les soins de santé et venir en aide à la fois aux entreprises, aux indépendants pour sauver les emplois, éviter la destruction des postes de travail, il faudra beaucoup d'argent. Et en plus de cela, il faut évidemment ne pas se contenter de gérer l'urgence, mais faire en sorte que le Green Deal et la transformation en profondeur de nos modèles de production et de consommation deviennent cette fois une réalité. Donc pour ça, il faudra de l'argent, c'est inévitable. Et cet argent, eh bien, soit on recourt à la dette, comme tous les États depuis toujours, depuis que la monnaie existe, l'ont fait, ça doit être un des moyens pour l'Union européenne de financer ses politiques, soit on fait en sorte que ces géants, ces multinationales qui échappent à l'impôt à travers toute une série de montages d'évasion, voire de fraude fiscale, soient mis sous véritable contrôle et que ces entités économiques payent simplement leur dû aux puissances publiques qui, de cette manière, pourront couvrir ces dépenses. Donc c'est vraiment le moment de rouvrir ce débat qui traîne depuis des années au G20, à l'OCDE, au sein de l'Union européenne, un peu dans tous les forums internationaux, mais qui ne progresse pas par le veto des pays qui en sont aujourd'hui les premiers bénéficiaires. Tu disais le Luxembourg, mais les Pays-Bas, c'est pas mal non plus. La Belgique a aussi été un paradis fiscal à travers les mécanismes des centres de coordination qui attiraient les banques internes des multinationales. Donc chacun dans cette Europe qui n'a pas de règles fiscales a essayé de tirer son épingle du jeu et ça tire tout le monde vers le bas. Il faut absolument que cette logique cesse.
On dit beaucoup, on le répète, l'Europe est en crise, mais comme tu le soulignes, quand on y réfléchit, l'Europe est peut-être en crise depuis 1000 ans, mais on a le sentiment peut-être maintenant que, pour utiliser l'expression, ça passe ou ça casse, qu'on est à un tournant. Parce qu'il y a, au sein même de la zone euro, il y a des mouvements dans les populations d'inspiration populiste, comme on dit entre guillemets, d'essayer de sortir de la. On l'a vu à propos de la Grèce, le risque, on l'a vu aussi à propos de l'Italie, le risque que certains pays sortent, je dirais, de leur plein gré ou forcés par les circonstances de la zone euro. Est-ce que le danger d'éclatement de la zone euro et de l'Union européenne en arrière-plan qui vient de passer, qui est toujours dans une crise extraordinaire du fait de cette initiative du Brexit, qu'est-ce qui nous fait penser que la pression actuelle pourrait peut-être déclencher, je dirais, ce mouvement de sortie par le haut de la situation plutôt que par une sortie par le bas ?
Alors moi, je suis moins inquiet de l'éclatement de la zone euro que d'un éclatement et d'une décomposition véritablement politique. Sur le plan de la zone euro, on n'est pas dans la même situation que dans les années d'après crise financière où la pression était mise sur la Grèce et on lui disait en gros vous avez le choix entre sortir de la zone euro ou bien accepter le diktat de la Troïka et rentrer dans un vaste programme d'austérité et de privatisation. Et ils ont été mis véritablement sous cette pression dont ils n'ont pas pu sortir avec la pression à la fois de la Commission, du Conseil, de l'Eurogroupe, du FMI, etc. Ils étaient véritablement mis sous un étouffoir pratiquement qui les a coincés. Aujourd'hui, la situation est différente parce que ce n'est pas un pays seul qui est confronté, tous les États sont confrontés, donc ce n'est pas une crise asymétrique, comme on le dit dans le jargon, c'est une crise qui touche l'ensemble de l'Union européenne, même si certains ont des capacités budgétaires supérieures à d'autres. Et puis, ça touche de très grands pays. Ça touche l'Italie, ça touche l'Espagne, ça touche la France et beaucoup d'autres. Et donc, c'est une majorité pratiquement des membres de la population et de la richesse représentée par les économies de la zone euro qui est affectée. Donc, je ne vois pas comment on mettrait la moitié de la zone euro en dehors de la zone euro. En revanche, le danger, donc la zone euro va être obligée de s'adapter. Elle a commencé, mais très, très timidement. En revanche, le danger, c'est véritablement celui d'une réaction populiste de droite. Quand on voit déjà la manière dont Salvini instrumentalise cette crise en Italie, en récupérant justement l'exemple de la Grèce, c'est quand même un paradoxal, c'est un dirigeant d'extrême droite qui utilise l'exemple de la Grèce et de ce gouvernement qui était de gauche radicale mis sous pression par l'Union européenne en disant « il ne faut surtout pas accepter le mécanisme européen de stabilité parce que ça revient à donner le pouvoir à Bruxelles et à Berlin et nous devons réaffirmer notre souveraineté, etc. » Moins on aide l'Italie, et c'est en ça que je trouve presque criminel l'attitude des dirigeants néerlandais, autrichiens et dans une certaine mesure allemands aujourd'hui, parce que à ne pas aider l'Italie, il laisse ces mouvements populistes profiter de la situation et peut-être que demain, ça peut conduire à une victoire d'une droite populiste, nationaliste, voire même d'une extrême droite en Italie, comme conséquence indirecte de l'incapacité de l'Europe à gérer cette situation. Quand on voit que dans le même temps, dans un pays comme la Hongrie, Viktor Orban profite des circonstances pour affaiblir très structurellement les règles de l'état de droit et que l'Union européenne jusqu'ici ne réagit pas, et on se dit que vraiment le danger, il est intensément politique cette fois-ci. Ce sont vraiment les principes politiques, les principes moraux de l'Union européenne, la démocratie, l'état de droit, les droits fondamentaux qui peuvent être mis en péril par l'absence de solidarité dans l'Union européenne.
Quand tu parles de 3 R, reprise, redéploiement, relance, est-ce que tu le conçois essentiellement dans un cadre national ou précisément au niveau européen ?
Alors ça doit agir à tous les niveaux. Pour nous, le niveau municipal ou communal, comme on dit en Belgique, est extrêmement important. On l'a vu dans la gestion de la crise, c'est vraiment le niveau local qui que ce soit en termes de sécurité, en termes de gestion des espaces publics, en termes de services publics, de mobilité, de traitement des déchets, etc., de soutien aux hôpitaux, de distribution de masques, les élus locaux sont vraiment très, très, très mobilisés. Mais les régions ont un rôle à jouer, les États ont un rôle à jouer, et l'Union européenne, évidemment, a un rôle extrêmement important à jouer. Et donc, pour nous, cette sortie de crise, elle doit être coordonnée à tous les échelons de pouvoir. Chacun doit pouvoir jouer pleinement son rôle. Et elle doit être organisée par étapes. Nous avons besoin d'une méthode. Ce dont l'Europe a manqué, ce dont elle manque encore aujourd'hui, c'est de méthode. Si nous continuons à réagir simplement au petit bonheur, la chance, du jour au lendemain, en fonction des circonstances et sans développer un véritable plan de sortie, alors nous ne pourrons pas nous en sortir. Et c'est là que nous voyons que le fédéralisme européen est quand même encore très faible. Obama a pu, peut-être pas avec l'ampleur de Roosevelt, mais il a pu quand même mettre en place une stratégie de sortie de la crise financière, avec notamment une lutte assez acharnée contre la fraude fiscale, une véritable politique industrielle qui a eu un effet. L'Union européenne a été incapable de le faire dans les années qui ont suivi la crise financière. Et hélas, aujourd'hui, on paraît à nouveau incapable de le faire. Alors que si nous avions de vraies obligations, un vrai budget européen, de vraies perspectives financières pluriannuelles européennes ambitieuses pour les 7 prochaines années, des programmes d'aide, une politique de la santé, c'est pas très difficile à concevoir. Et d'ailleurs, beaucoup de gens ont commencé à y travailler. Nous aurions vraiment l'occasion d'apporter les réponses dont l'Europe a besoin et de consolider structurellement l'Europe et les principes de démocratie, d'état de droit sur lesquels elle est construite.
Tu as déjà fait allusion, quand tu as parlé de mutualisation de la dette au niveau européen, tu as utilisé le mot trésor pour un ministère des Finances au niveau de la zone euro. Si ça n'a pas eu lieu jusqu'ici, c'est en raison de blocage essentiellement. Tu as mentionné les pays, l'Allemagne soutenue par les Pays-Bas, la Finlande. Qu'est-ce qui pourrait débloquer maintenant? Qu'est-ce qui pourrait faire que les choses changent? Je réfléchis à cette phrase que Keynes avait écrite dans des circonstances tout à fait curieuses. Alors, il l'écrit dans un bureau à Londres, alors qu'il y a des bombardements tout autour de lui. Et il envisage déjà l'avenir et il écrit dans ce petit texte qui date donc de janvier 1941. Il faut que nous nous rendions compte que quand la guerre sera terminée et quoi qu'il arrive, l'Allemagne se retrouvera de fait comme la puissance hégémonique en Europe. On en est toujours là. Comment faire pour qu'une puissance hégémonique entende la voix des autres?
D'abord, je crois que c'est un vrai travail de la société civile allemande elle-même. C'est toute la difficulté de la construction européenne, c'est que essayer de jeter l'anathème sur l'Allemagne ou de considérer qu'elle est responsable de tous les maux de l'Union européenne, je crois, n'aidera pas. Ne peut avoir que des effets contre-productifs. Mais quand j'entends des dirigeants sociaux-démocrates allemands dire « Bon, bien, si la fédération allemande ne veut pas prêter à l'Italie, eh bien, les lenders, les entités régionales allemandes, les États allemands qui sont gouvernés par la gauche, eux pourraient entrer dans un système de solidarité. » Alors, c'est un peu compliqué à faire sur le plan pratique parce qu'ils n'ont pas d'entité, ils n'ont pas de monnaie, ils n'ont pas d'existence souveraine. Mais c'est un signal politique intéressant. Ça veut dire que ça vit et que ça bouge aussi dans la société civile allemande. Et puis, je crois qu'il faut que, voilà, Madame Merkel, on peut quand même le dire, au moment de ce qu'on a appelé, sans doute à tort, la crise migratoire, a eu ce fameux « Wir schaffen das », nous allons y arriver. Oui, nous avons la possibilité d'assumer cette arrivée de personnes qui cherchaient l'exil chez nous en Europe. Eh bien, à nouveau, il faut qu'elles redisent un « Wir schaffen das ». Oui, nous devons avoir la possibilité, ensemble, de porter. Alors, je ne veux pas dire que c'est la seule responsabilité de Madame Merkel, mais mes amis sociaux-démocrates sont au gouvernement avec elle en Allemagne, donc on en parle avec Olaf Scholz, notamment le ministre allemand des Finances. Il y a une vraie rupture culturelle, intellectuelle à accomplir en Allemagne. Et je crois que si cette rupture s'accomplissait là, c'est pour les Néerlandais, les Autrichiens, alors une obligation de s'y rallier. Je n'imagine pas les Néerlandais seuls empêcher qu'une perspective qui serait portée quand même déjà par 9 États qui ont eu un message assez fort, dans lesquels on retrouvait à la fois Sanchez pour l'Espagne, Costa pour le Portugal, mais aussi la France, aussi la Belgique, le Luxembourg, pourtant dirigé aussi par des libéraux. Donc une série de pays qui ont émis ce message en disant « c'est le moment de lancer de vrais instruments de solidarité », eh bien, il faut espérer que cette pression augmente et que l'Allemagne s'y rallie et entraîne dans son sillage les autres pays réticents qui, de manière un peu facile, se cachent derrière elle.
Nous avons parlé de l'Europe. Parlons maintenant du travail que nous avons déjà évoqué en parlant de ces professions absolument indispensables et dont il s'agirait de revaloriser la manière dont nous les traitons. Je vois dans ce que je lis sur l'Internet, des gens qu'on interviewe, des gens qui laissent entendre « Ah, c'est formidable, je travaille à la maison, c'est du télétravail. » En fait, je me rends compte que si on enlève toutes les réunions, je travaille en réalité la moitié ou le tiers du temps que je passais dans l'entreprise. Alors ces gens disent ce qu'ils ont sur le cœur et ils ont bien raison de le dire, mais les employeurs vont entendre ça aussi. Est-ce que la question ne va pas être posée je dirais peut-être d'emplois dont on va se rendre compte qu'en s'organisant autrement, on pourrait faire le travail autrement et avec moins de personnes. Est-ce que la question ne va pas se poser ?
Alors d'abord, il ne faut pas oublier que énormément de fonctions sociales dans le monde du travail ne peuvent pas être exercées à distance et que toutes celles et tous ceux qui continuent à travailler sur le terrain, que ce soit pour assurer la sécurité, le traitement des déchets, le soin aux personnes, la production matérielle, la production agricole et agroalimentaire, etc., tout cela continue et devront continuer à travailler sur des lieux de travail qui ne peuvent pas être chez eux. Et il faut faire attention à ne pas créer une espèce de nouvelle fracture sociale entre ceux qui peuvent télétravailler, qui en ont la faculté, et qui ceux qui, de toute façon, ne pourront pas télétravailler parce que la nature même de leur travail ne le permettra pas. Ensuite, parmi ceux qui ont la chance, parce que je pense qu'il faut le considérer comme une chance, de pouvoir télétravailler, j'espère, oui, que ça conduira à nous interroger sur nos manières de travailler et sur ce que l'anthropologue américain, je crois qu'il s'appelle Graber, je ne reviens pas sur son nom, appelle des bullshit jobs, c'est-à-dire tous ces emplois qui finalement ne servent à peu près à rien. Dans ce capitalisme hyper sophistiqué que nous avons aujourd'hui, nous avons des groupes d'une complexité sans nom et avec des structures internes qui servent juste à se protéger contre la concurrence d'autres ou à créer, ça ressemble un peu à ces mécanismes hyper élaborés que Niklas Luhmann décrivait comme le phénomène de l'hypermodernité, c'est-à-dire des structures qui se complexifient sans cesse, qui créent sans cesse en interne des systèmes de contrôle, des systèmes de validation, des systèmes de motivation parce qu'on a tellement démotivé les gens, hein, ces happiness officers comme on les appelle aujourd'hui, etc., etc. Oui, il y a une espèce de course folle vers une tertiarisation à outrance de notre économie et vers la création de fonctions à haute valeur symbolique, à très haute rémunération et pourtant à utilité sociale faible, voire négative. Et à côté de ça, on a des fonctions presque éternelles, pourrait-on dire, qui ont toujours existé dans la cité depuis des siècles, voire des millénaires, qui, elles, se révèlent dans des circonstances comme celle-ci d'une très très grande utilité sociale. Et donc j'espère vraiment que ça nous amènera non seulement à repenser les modalités du travail, mais aussi à repenser la hiérarchie des fonctions dans le monde du travail.
La crise, le fait d'avoir accès à des masques, à des tests, à des respirateurs, comme on dit, a attiré l'attention du public vers la nécessité de deux choses. Peut-être ne plus que les entreprises ne travaillent plus en flux tendu, c'est-à-dire qu'il suffisait quand il n'y avait plus rien sur les rayons qu'on appelle quelqu'un et cette personne s'arrangerait pour qu'il y ait un avion qui vienne des Philippines avec les choses qui manquent. On s'aperçut maintenant que si on ne peut plus mettre le pilote dans l'avion parce qu'il doit rester confiné à la maison, les problèmes se posent. Et donc, on parle de relocalisation essentiellement parce qu'on a l'impression revenir à une certaine autonomie au niveau de la production dans un pays va résoudre une partie des problèmes. Évidemment, plus le pays est petit, plus il est difficile d'imaginer qu'on va à nouveau tout faire à l'intérieur de chez soi. Il y avait un Français qui avait fait un documentaire intéressant qui s'appelait Made in France. Il avait vidé tout ce qu'il y avait dans son studio et puis il a dit je vais le remplir à nouveau, le réapprovisionner uniquement avec des choses qui sont faites en France. Et il s'est aperçu que la tâche était absolument impossible. Il ne pouvait même plus acheter un costume pour aller se rendre à une interview parce qu'il n'y a aucun costume qui soit véritablement créé en France. Quand on dit relocalisation, à quoi pense-t-on exactement ?
Je pense qu'il faut penser la relocalisation à différentes échelles. Il y a une série de biens qui devraient revenir à une échelle très nettement infranationale, et en particulier tout ce qui relève de l'alimentation, l'essentiel de l'alimentation. Ça a été comme ça aussi pendant des siècles et des millénaires. les villes ont vécu pour l'essentiel avec les campagnes étaient autosuffisantes et elles couvraient les trois quarts de la population, et les villes vivaient pour l'essentiel avec des produits qui étaient fabriqués, qui étaient cultivés dans une aire métropolitaine très proche du centre urbain. À Paris, c'était le maraîchage était fait en couronne parisienne et on n'importait pas des biens qui venaient du bout du monde. Même s'il y a toujours eu des importations, Rome comme Athènes importait du blé de Sicile, d'Algérie, d'Égypte, etc. parce qu'ils n'étaient pas autosuffisants sur ce bien qui était absolument fondamental. Donc il ne faut pas verser dans un espèce de petit protectionnisme, mais se dire il y a des choses qu'on peut faire à une échelle très proche. Et sans doute que pour ce qui est d'une certaine forme d'autonomie, la bonne échelle pour nous, c'est l'Europe. On peut presque tout produire en Europe. Ça ne veut pas dire qu'il faut mettre fin au libre-échange global. Il y aura toujours des biens, un certain nombre de biens qui seront fabriqués dans d'autres régions du monde. Je pense, par exemple, dans ma région ici, on a une usine de radioisotopes, qui est un bien absolument indispensable dans le secteur de la santé, de l'imagerie médicale. Il n'y en a que 5 usines dans le monde. Ça veut dire que si une des 5 ferme, eh bien, on est obligé d'importer des radioisotopes d'Afrique du Sud ou ce genre de choses. On ne va pas soudainement mettre fin à l'ensemble de ces flux de biens et de services à l'échelle mondiale, mais ça doit nous amener vraiment à réfléchir aux chaînes de valeur et à réfléchir à ce que nous produisons et à ce que nous avons cessé de produire. Parce que c'est un impératif environnemental. Aujourd'hui, nous, les Européens, on peut presque se vanter de dire que finalement, on a une économie qui est de plus en plus décarbonée. C'est évidemment très facile si on ne compte pas dans notre bilan carbone d'Européens tout ce que nous importons d'autres régions du monde et des biens qui sont produits sans aucun respect de la volonté de réduire les émissions de carbone et d'autres types de polluants. Et donc, si on reste dans cette logique sur laquelle la Chine doit rester l'usine du monde, la Chine, l'Inde, le Brésil, quelques autres régions du monde sont les usines du monde et nous allons nous concentrer sur le secteur tertiaire et puis sur le secteur public, ça ne peut pas fonctionner. Il faut pouvoir relocaliser une grande partie de cette production sur le continent européen et créer, je pense, de vraies chaînes de valeur intégrées au plan européen. En commençant par, évidemment, ce qui est absolument stratégique, nous découvrons tout d'un coup que nous importons 80% du matériel médical et du matériel de test, etc., de la Chine, et que ça nous rend donc extrêmement vulnérables en période de pandémie. Là, on va très probablement avoir un réflexe un peu partout qui va consister à se dire, eh bien, faisons-le chez nous. Ce serait beaucoup plus intéressant que ce soit fait à une échelle européenne, avec une vraie politique de la logistique de la santé à l'échelle européenne, avec des vraies procédures et protocoles mis en place en cas de pandémie, plutôt que de vouloir absolument tous le faire à une échelle nationale ou infranationale. Donc, je ne crois pas au protectionnisme, je ne crois pas à une forme de nationalisme économique. Je pense plutôt à réfléchir à une économie qui serait orientée pour l'essentiel sur les grandes régions du monde et un libre-échange qui se ferait plutôt à l'intérieur de ces ensembles. Un libre-échange intra-européen qui existe déjà avec le marché commun, unique. Et puis quelques échanges qu'on continuerait à faire avec d'autres régions du monde, mais pas avec l'ampleur que l'on connaît aujourd'hui.
Le premier roman du romancier américain Kurt Vonnegut s'appelle Player Piano. Player Piano, ça veut dire piano mécanique. Et il écrit donc, je crois que c'est en 53 ou 54, ce roman où il parle d'un monde de l'an 2000 entièrement automatisé. Et quand je lis dans les premières pages que le patron, le directeur de l'entreprise, appelle sa sténodactylo, je me dis immédiatement, il y a quelque chose qu'il n'a pas vu. Et en fait, non, il l'a bien vu, parce qu'il nous dit à la page suivante, vous avez bien compris que à notre époque, une sténodactylo, c'est uniquement a status symbol, c'est un symbole pour le directeur qu'il a encore une sténodactylo. Alors, nous le savons, toutes les sténodactylos ont disparu. Nous savons aussi qu'il n'y a pas eu, c'était pas un problème de relocalisation, que du jour au lendemain est apparu le traitement de texte qui a fait disparaître entièrement une profession. Et les cas sont nombreux. Maintenant, c'est la robotisation, maintenant c'est l'intelligence artificielle. Quand Monsieur Trump devient président, il nous dit « on va relocaliser tout ce qui est parti ». Et aussitôt, une étude sort qui montre qu'au cours des 20 années récentes aux États-Unis, 13% des emplois qui ont disparu ont été relocalisés, 87% ont été remplacés purement et simplement par le numérique, le robot, l'intelligence artificielle, les algorithmes. Quand on parle de relocalisation, on doit y penser dans un cadre général où par ce développement technique, l'emploi disparaît d'une certaine manière automatiquement. Quand on regarde les chiffres, et je l'ai regardé récemment pour le livre qu'on a écrit ensemble, Vincent Burnand-Galpin et moi, on s'aperçoit que les entreprises qui ont la plus grande valeur actionnariale, celles qui créent le plus de richesses, comme on dirait, la valeur ajoutée qui additionnée produit le produit intérieur brut, ce sont en général maintenant des entreprises qui n'utilisent pas beaucoup de monde. Comment faut-il envisager cette question dans un monde où on a d'une part des choses qui ne sont pas encore remplacées par la machine et qui sont des emplois dévalorisés, qui sont très mal payés, et des gens qui sont très très bien payés mais qui sont peu nombreux pour faire marcher la machine?
D'abord, moi j'aime les machines. Je trouve que toutes les machines qui nous libèrent d'un travail pénible sont des machines extrêmement utiles. Et c'est un vieux rêve socialiste depuis bien avant Marx, depuis Robert Owen, Charles Fourier, etc. Ces premiers socialistes n'étaient pas opposés à la technique, ils n'étaient pas opposés à la machine, ils ne vivaient pas dans la nostalgie du temps de l'artisanat. Toute machine qui peut libérer l'homme de tâches pénibles doit pouvoir être développée. Toute machine qui peut être un accessoire qui facilite le travail de l'homme doit aussi pouvoir être développée et encouragée. Et en ce compris dans des secteurs comme l'aide à la personne, on a aujourd'hui de plus en plus de machines dans les maisons de repos, par exemple, qui aident le personnel des maisons de repos à retourner les personnes très âgées qui ne peuvent plus facilement se mobiliser pour faire leur toilette, par exemple. Donc la machine ne doit pas être vue comme un danger, elle doit être vue au contraire comme un instrument de libération et d'émancipation qui nous permet de nous concentrer sur la part du travail qui ne peut pas être automatisée. Tous les gestes qui peuvent être faits de manière répétitive et qui sont susceptibles d'être soit automatisés, soit digitalisés, soit les deux à la fois. Mais en un sens, tant mieux, parce que tous ces gestes répétitifs sont des gestes qui sont aliénants, sont des gestes qui n'apportent rien, dans lesquels nous n'exprimons pas notre créativité, notre génie humain à travers le travail. Et donc, tant mieux si ce sont des machines, des robots qui le font à notre place et que nous pouvons nous concentrer davantage sur d'autres missions. Et moi, je continue à penser que il y a dans nos sociétés encore d'immenses besoins de travail humain. Nous avons besoin de psychologues, nous avons besoin d'enseignants, nous avons besoin de journalistes, d'intellectuels, de créateurs, d'agriculteurs qui retravaillent avec des méthodes beaucoup plus intensives en main-d'œuvre et qui se passent d'engrais, de pesticides, de toutes les formes d'intrants chimiques, etc., etc. C'est-à-dire que si on change toutes nos manières de travailler en utilisant à bon escient la machine et en revalorisant ce que l'acte de travail humain apporte, alors je crois qu'il y a amplement du travail pour tout le monde, outre que reste évidemment ouvert le grand débat de la réduction collective du temps de travail qui permet à chacun d'avoir davantage de temps personnel. Mais ça suppose alors un vrai débat sur la contribution à l'effort collectif. Et ça suppose un vrai débat donc sur la fiscalité. Quels sont les types de revenus que demain il faut taxer? Est-ce qu'il faut taxer les robots ou est-ce qu'il faut ne pas taxer les robots, mais taxer en revanche davantage les revenus de l'entreprise, les revenus de l'entreprise et moins les revenus du travail? Taxer davantage le capital, taxer davantage la transmission de la fortune d'une génération à l'autre, ça c'est un débat fondamental sur l'équité qui doit permettre de financer ces services publics indispensables.
Tu as mentionné quelques figures tutélaires, effectivement, de la réflexion socialiste, comme Fourier ou Owen, l'inventeur de la coopérative. On pense aussi, bien entendu, à Sismondi, qui, à l'époque des luddites, qui allait casser les machines, qui les remplaçait, que ce soit de la légende ou qu'il y ait eu quand même quelques incidents véritables, qui ont conduit d'ailleurs à des procès, qui ont conduit à la pendaison de quelques meneurs, plus la déportation en Australie d'un grand nombre d'eux. D'entre eux, c'est Sismondi qui avait produit, je dirais, un peu ce théorème en disant toute personne qui est remplacée par la machine dans cet effort, qui est un effort, comme tu le dis, c'est un effort collectif de l'humanité dans son ensemble, d'être remplacée par la machine pour les raisons que tu as mentionnées, les tâches épuisantes, dangereuses, etc. Il faisait cette proposition que toute personne remplacée par la machine dispose à l'avenir d'une rente perçu justement sur la production de cette machine. Est-ce qu'on n'entend pas, quand il y a protestation justement contre une taxe robot, une taxe sur les machines, est-ce qu'on n'entend pas du côté du patronat souvent une clameur disant il n'y a pas de raison que ça se soit taxé, alors que bien entendu la personne, l'ouvrier, le travailleur, la travailleuse qui a été remplacée, l'employé, lui payait des impôts. Comment financer justement cet effort général? Est-ce que la question de la taxe robot n'est pas une question essentielle aujourd'hui?
C'est une question intéressante. Alors, bon, j'ai pas d'avis définitif sur la question, mais je trouve pas tellement intéressant de taxer une machine. C'est comme toutes ces taxes sur les forces motrices, etc. Je trouve plus intéressant de se poser la question d'une juste taxation du capital et des revenus du capital. Dans les réflexions que Thomas Piketty, Saez, Zucman, etc. ont conduites et amenées, et de taxer les revenus de l'entreprise. Si une entreprise est très capitalisée, qu'elle a beaucoup de machines, beaucoup de logiciels et qu'elle produit beaucoup de revenus, eh bien, elle contribuera aussi à la prospérité collective. Taxer les machines, c'est risquer de retarder la robotisation et la digitalisation de notre économie qui peuvent être très utiles aussi dans une logique de relocalisation. On voit par exemple, j'ai vu dans une entreprise aéronautique de ma région, que depuis qu'on a davantage automatisé, digitalisé certaines fonctions de production, non seulement on a rendu le travail des ouvriers plus intéressant, mais en plus on a pu relocaliser des chaînes de montage qui avaient été délocalisées il y a une vingtaine d'années, parce que ça relativise beaucoup le coût du travail dans le coût global de la production. Donc je ne pense pas qu'il faille freiner le recours à ces technologies.
Dans une perspective de justice sociale, on parle beaucoup de revenus universels de base. On pense aussi, et c'est au centre de ce livre que je viens d'écrire avec Vincent Burnand-Galpin, on parle beaucoup de la gratuité, d'une extension de la gratuité. L'expérience de l'assurance maladie qui permettait un accès à la santé, à l'invalidité gratuit, l'époque où l'enseignement était encore véritablement gratuit, est-ce qu'il ne faut pas d'abord revenir à une entière gratuité de l'enseignement et de l'assurance maladie? Et est-ce qu'il ne faut pas aussi étendre cela au logement de base, à l'alimentation de base? Je pense à ce admirable discours de Robespierre sur la subsistance, où il dit il y a une chose plus sacro-sainte que la propriété privée, puisque on venait en France d'utiliser cette phrase dans la Déclaration universelle du droit du citoyen. Alors, à une époque où on ne parlait plus beaucoup du sacré, on l'a mis sur la propriété privée. Il dit, il y a une chose qui est bien davantage sacro-sainte que la propriété privée, c'est le fait que nous soyons en vie demain. Et la solution à ça, c'est de distinguer dans la subsistance deux parties. La subsistance absolument indispensable, dont il faudrait qu'elle soit assurée par la gratuité, et qu'on laisse au commerce, dit-il, le soin pour les choses qui sont de l'ordre du superflu ou du moins important, le soin au commerce de l'utiliser. Entre cette notion de revenu universel de base et d'étendre la gratuité, ont ton soutien, ou bien est-ce que tu rejetterais les deux comme une approche possible?
Non, moi je crois beaucoup plus en la gratuité que dans cette idée d'allocation universelle. Parce que la gratuité, ça crée un vrai patrimoine collectif, parce que ça démarchandise, pour reprendre le terme de Karl Polanyi, des secteurs extrêmement importants de notre société, ceux qui font société justement. Tu parlais de l'école, de la santé, mais on voit de plus en plus un mouvement aussi pour la gratuité de la mobilité, des transports publics, la gratuité de l'accès à des logiciels, à des biens qui sont aujourd'hui des biens extrêmement importants. Et je crois que cette extension, moi je milite beaucoup aussi en Belgique pour la gratuité des repas scolaires dans les écoles, parce qu'on voit que beaucoup d'enfants, hélas, n'ont pas accès à une alimentation équilibrée et de bonne qualité, et qu'on sait que ça a des conséquences sur leur développement physique et cérébral, et donc sur la constitution d'inégalités à très long terme. Donc je crois que la gratuité, c'est vraiment un très très bon combat. L'allocation universelle, je suis un peu moins convaincu, parce que je crois encore au travail. Je crois aussi au travail comme lien constitutif de la société, au travail aussi comme lien constitutif de la protection sociale. C'est à travers le travail que nous constituons ce patrimoine de la sécurité sociale, comme on l'appelle, et ce lien-là nous rappelle que c'est par les efforts que nous faisons au quotidien pour contribuer à la prospérité et à la cohésion sociale de la collectivité dans son ensemble que nous contribuons aussi indirectement à construire ce patrimoine de ceux qui n'en ont pas, comme on dit, que sont les services publics et la protection sociale. Et de ce point de vue-là, on peut quand même se dire que le socialisme ne s'en est pas si mal sorti, puisqu'aujourd'hui, en Belgique comme en France, comme dans les pays nordiques, on socialise quand même plus de la moitié de la richesse produite qui est redistribuée à travers les services publics et les prestations sociales, ce qui est quand même la preuve que cette idée d'un patrimoine commun à côté des patrimoines individuels est extrêmement importante. Je vais vraiment devoir te laisser bientôt. Je suis désolé, Paul, mais je reçois des SMS qui me rappellent à l'urgence que je suis déjà très en retard pour mes deux.
Eh bien, alors on va conclure. Je vais te poser une question qui sera la conclusion. Grand principe auquel nous sommes attachés, principe de solidarité, principe d'entraide, la nécessité aussi de gérer un pays où les électeurs peuvent conduire à des représentants qui ne partagent pas nécessairement ce type de valeurs. Ma question, tu l'as comprise, elle vient là en arrière-plan. Est-il possible de diriger un pays où on aurait à la direction des affaires, et je sais que tu as une opinion bien précise là-dessus, à la fois des partis socialistes néerlandophones et francophones et un parti majoritaire en Flandre en ce moment comme le N-VA?
Ça m'a toujours paru, et ça me paraît encore extrêmement difficile, voire impossible, parce que tout nous oppose, et non seulement l'ensemble des problématiques socio-économiques, mais la vision de l'avenir de l'État, la vision de l'avenir de l'Europe, l'importance de la question climatique, l'importance des questions de solidarité internationale, de migration, etc., tout nous oppose. Et je pense qu'essayer de faire des gouvernements dans lesquels on met ensemble des gens qui n'ont absolument rien en commun, c'est finalement transporter au sein de l'exécutif ce qui doit être une saine opposition entre différentes visions du monde, entre une majorité et une opposition au sein d'un Parlement. Et l'emmener dans l'exécutif, c'est conduire cet exécutif à la paralysie et à l'inaction. Et je préfère encore à la limite que tant pis, la gauche soit dans l'opposition de temps en temps et qu'elle redevienne une force de recours, mais que quand elle gouverne, elle puisse aussi véritablement gouverner et imprimer sa marque plutôt que d'être dans un jeu de neutralisation réciproque qui conduit à l'immobilisme, ce qui conduit aussi à la perte de confiance des citoyens dans la faculté de la politique de changer le monde.
Merci Paul Magnette d'avoir passé des minutes précieuses de confinement, mais néanmoins précieuses avec nous, et de nous avoir éclairé sur l'ensemble de ces problèmes. Merci beaucoup d'être venu.
Merci beaucoup Paul, à bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
Vous étiez à l'écoute d'un entretien entre Paul Jorion, essayiste, et Paul Magnette, bourgmestre de Charleroi, président du PS, sur le thème « Le monde d'après » et enregistré le 21 avril 2020.